Rencontre avec Christophe Piret, metteur en scène né dans le Nord à Aumont et revenu fonder le théâtre de chambre à Aulnoy-Aymeri sur le territoire de la ZAS La Florentine. Autour du projet Dans ma maison et de ses 5 boîtes, Christophe Piret nous parle de sa façon de travailler avec les acteurs qu'il rencontre et de sa relation au public.
Dans les différents spectacles que vous avez pu mettre en scène, J'ai vu les boîtes à Roubaix au mois de mai, et par contre, il y en a une que j'ai pas vue, c'est la boîte du Nord, la première en fait.
Ah oui.
J'ai vu la boîte Moscou Translation,
ouais.
Bruxelles Station,
ouais.
La boîte Oiseau-Mouche, et en fait, j'avais pas fait attention, mais l'affiche présente ça comme justement Dans ma maison, conte de la vie ordinaire. Et ensuite, je suis allée voir un petit peu sur internet les spectacles que vous avez fait avant. Alors, j'ai vu notamment Mariage. Donc, tout ça, ça renvoie effectivement à des choses de la vie de tous les jours. On voit pas forcément au milieu du spectacle, ou au théâtre, ou à la danse, mais non, à des moments forts de la vie. Quoi.
Oui, je travaille. Je fouille ça en permanence. Ce qui m'intéresse, c'est ces petites choses qui nous font, effectivement. Et c'est dans ma maison, je m'étais dit, je ferais 5 boîtes comme ça, 5 maisons, en quelque sorte. Pourquoi 5, je sais pas. Je me suis dit, il fallait que j'en fasse un certain nombre pour fouiller plusieurs choses, mais je ne vais pas non plus m'enfermer dans quelque chose. Donc voilà, 5. Et oui, nos maisons mentales, nos maisons physiques, c'est intéressant aussi. Moi, j'aime bien regarder par la fenêtre. Aussi. Pas forcément pour être voyeur, mais comment, c'est quoi ta vie? Comment tu fais pour vivre, quoi? Qu'est-ce qui t'emmène? Il est où ton désir? Comment tu ris? Qu'est-ce qui te fait? Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, moi, m'intéressent.
Enfin, moi, j'en ai vu 3. Alors, il y a plein de points communs, parce qu'il y a ces fameuses boîtes qui sont d'abord fermées et qui s'ouvrent. Il y a aussi la musique, qui est, moi, je trouve assez extraordinaire et qu'on reconnaît, en fait, d'un spectacle à l'autre et qui, à chaque fois, fait écho au spectacle. Et puis, des gens qu'on va rencontrer. Alors, par contre, c'est à chaque fois pas les mêmes gens, pas la même histoire, pas la même... À chaque fois, c'est très poétique, mais pas toujours dans le même ton. Ça peut être... Enfin, moi, ça m'avait beaucoup touchée parce que j'étais passée par plein de sentiments différents. Et donc, plein de points communs, plein de voyages différents, plein de rencontres différentes à chaque fois. Est-ce que, par exemple, quand vous avez lancé les boîtes, vous aviez déjà une idée à quoi ça allait aboutir, ou finalement, c'est en rencontrant les gens et en faisant les différentes boîtes que, petit à petit, ça y a une sorte de cohérence entre elles?
Alors, il y a plusieurs choses... L'idée des boîtes m'est venue à partir de 2 trucs. La première idée, c'était un souvenir d'enfant. J'habitais dans une cité ouvrière où toutes les maisons étaient pareilles. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on voyageait en Europe en passant d'une maison à l'autre. Juste à côté, c'était les Italiens. Et là, on rentrait là-dedans, c'était l'Italie. Les gens parlaient italien, les autres d'heure, les machins. Enfin bref. Plus loin, c'était les Polonais, tout ça. Donc, c'était intéressant. Tout à coup, j'ai eu cette sensation que le monde était les maisons. Voilà, que ça fonctionnait par les gens, que le monde était les gens, les maisons. Quand les gens partaient, là, le monde disparaissait, un certain monde disparaissait. Puis, j'ai pas mal voyagé aussi, j'aime beaucoup les ports, les containers, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas s'ils arrivent, s'ils partent. Bon, c'était un peu ces deux idées maîtresses. Et puis, j'aime bien... Je disais tout à l'heure, ça peut se deviner, les matériaux, moi j'appelle ça des vrais matériaux. Quoi. C'est-à-dire, j'aime bien l'acier, j'aime bien le bois, j'aime bien... Quand on voit une mécanique, qu'on comprenne ce qui se passe, je cache pas les mécaniques. Je trouve que les mains au travail, c'est beau aussi de voir un truc qui se développe. Enfin, moi j'aime bien...
Des choses qu'on peut façonner.
Des choses qu'on peut façonner. Quand on voit quelqu'un qui pédale, qu'on voit l'effort, c'est un vrai effort, ça entraîne quelque chose. Le travail produit une action.
L'énergie,
du mouvement, voilà, j'aime bien ça. J'aime bien aussi voir la sueur des êtres. Enfin, on n'est pas dans la fabrication, dans la fabrique au sens artificiel du terme, ou donner l'illusion, voilà. Hein, mais c'est vraiment, on fabrique vraiment, quoi. C'est physique.
Donc j'aime bien.
Ça peut être fatigant et c'est violent, et on va jusqu'au bout de ces choses-là. C'est un petit peu con, mais Souvent les gens me disent, mais c'est vraiment de la vodka qui boit la boîte russe? Ben oui, c'est vraiment de la vodka. C'est-à-dire qu'on triche sur rien. C'est un peu un pari. C'est la vraie soupe qu'on fait nous-mêmes. C'est avec des vrais poireaux. Voilà, c'est pas un truc qu'on a acheté. Enfin, c'est des paris qu'on dit, on fait tout jusqu'au bout dans la vérité. C'est pas des fausses claques. On est au bord de ça, on se fait pas mal évidemment, mais voilà, on va chercher ces vérités-là, ces vraies sensations. Donc il y avait ces envies-là, en tout cas a priori, des boîtes. Et puis après, je m'étais dit, je vais laisser faire les choses. Et c'est-à-dire, je ne me suis pas dit, par exemple, je vais faire une boîte russe, il faut que je trouve un acteur russe ou une actrice russe, machin. Je ne me suis pas dit ça du tout. C'est-à-dire que c'est un peu terrible dans la vie, je trouve, comme au théâtre, quand... Enfin, c'est ma sensation, encore une fois, hein, je ne veux pas... comment dire ça, affirmer que ce sont des vérités absolues du tout, ce sont mes sensations, mes propres manières de voir et de vivre. C'est assez terrible quand, en amour par exemple, quand quelqu'un te voit et s'imagine plein de trucs et s'attend à ce que tu réalises ces choses qui ont, mais non, étaient imaginées. Il y a trop d'attente, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble après? Pour être plus clair, c'est on demande à l'autre d'interpréter quelque chose qu'on aurait écrit. C'est terrible aussi ça, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a une part, ça peut être un jeu, mais au bout d'un moment, il y a une part de négation de l'être, de l'autre en tant qu'entité, enfin.
Peut-être de ça aussi que l'on ait ce sentiment d'étouffement.
D'étouffement, emprisonné. Et demander à l'autre d'être complètement dans une image qu'on s'est inventée.
Est-ce que c'est difficile d'être attentif et d'écouter l'autre et ses envies? Je pense qu'on a tous... projection, et du coup on enferme.
Donc oui, voilà, on a tous cette tentation-là. Alors, ça peut être marrant sur des moments de jeu où on se laisse aller à jouer ce que demande l'autre, mais si ça devient un enfermement systématique,
c'est la fin, je crois.
C'est la fin. Et puis il y a eu des choses assez naturelles qui se sont faites, parce que moi, il y a l'autre spectacle dont je parlais tout à l'heure avec les Karen qui nous a amené à voyager pas mal.
Mariage.
Donc à rencontrer des gens. Et la première boîte s'appelle Boîte Nord. C'est un peu naturel de commencer par celle-là. On était ici, et puis il y a une actrice qui s'appelle Annie Poli, donc qui joue dans la Boîte Nord, qui est quelqu'un qui vit vraiment là, quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années maintenant. Et qui n'était pas du tout comédienne, mais par qui j'étais fasciné complètement. C'est une dame qui a une soixantaine d'années, dont la voix sent les deux paquets de gitanes sans filtre par jour, enfin. Bref, qui a un personnage comme ça incroyable, avec un corps incroyable, une présence physique, une vie incroyable aussi. Enfin bref, pas raconter toute sa vie, mais ouf, pas mal, quoi. Et qui a gardé un rire incroyable aussi. Alors que quand on regarde sa vie, on dit ouh là 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 là, c'est pas triste, hein. Et donc, qui devient actrice, maintenant qui tourne pas mal aussi pour la télé, des choses comme ça. Et puis, il y avait elle, avec cet accent du Nord qu'elle a, qu'elle porte, sa timitude, on va dire ça comme ça. J'aime pas ce mot. Hein, mais... Et puis un autre mec que j'ai croisé, un acteur, Marc Amiot, qui lui est d'un autre Nord, parce qu'il est québécois. Et c'était intéressant pour pas s'enfermer dans un truc très ch'timi, machin, qui était, voilà. Moi, j'aime bien, encore une fois, c'est la gare, hein, on est quelque part, mais c'est pour voyager.
Mais on va ailleurs,
c'est important pour moi. Donc, c'était intéressant de les mettre tous les deux dans une boîte. Donc, j'ai provoqué un peu cette rencontre de Marc Amiot, qui est devenu un ami, qui était déjà un ami, et d'Annie Poli, et de faire se rencontrer ces deux-là, avec leurs deux Nord, et ces deux physiques, en plus, très particuliers, et qu'on s'invente des histoires. Donc, c'est vraiment parce qu'il y avait eu ces deux êtres-là, que cette boîte est devenue Boîte Nord, quoi.
Ça commence par là, ça commence par une rencontre, et puis toujours faire se rencontrer les gens, et les gens discutent, et les gens échangent, et à partir de là...
On construit, voilà. J'ai créé un cadre, un endroit de rencontre, une chambre, peut-être, quelque chose comme ça, et c'est dans cet endroit de rencontre qu'on va bâtir. C'est à cet endroit de la rencontre qu'on va bâtir le spectacle. Et puis après... On était en tournée en Italie, et puis on a rencontré une compagnie qui s'appelle Teatro delle Arietti, et qui ont une histoire complètement singulière. Stefano et Paola étaient acteurs et musiciens, et puis à un moment donné, en 89, ils ont décidé de tout arrêter, Parce que je trouvais plus, le théâtre ne parlait plus, ne leur parlait plus, ils ne trouvaient plus leur, le sens là-dedans. Donc ils ont repris une ferme, la ferme du grand-père, ils sont devenus paysans. Et puis évidemment, au bout d'un moment, le théâtre les a démangés. Enfin, quand c'est notre vie, on peut jamais s'en séparer. On croit qu'on peut s'en séparer, mais on ne peut pas. Et très vite, ils ont fait du théâtre, ils ont construit un théâtre de leurs mains, au milieu de leur champ de blé. Et voilà, et puis c'était reparti au niveau du théâtre. Au début, ils ont essayé de concilier l'agriculture et le théâtre. C'était assez beau, c'était un peu compliqué.
Du coup, c'est les rythmes dont on parlait tout à l'heure, mais là, qui du coup peuvent se chevaucher.
Voilà, se chevaucher, se confronter. Ouais. Ceci dit, ils gardent tout le temps, même s'ils ont ralenti évidemment énormément leur activité agricole, ils gardent quand même leur champ de blé, ils font quand même du blé, ils font encore des trucs, ils essaient de gérer comme ils peuvent. Ils ont toujours leur ferme avec les animaux, les poules, les moutons, les machins. Donc il y a quelqu'un qui vient quand ils sont en tournée, ce qui tourne beaucoup, mais ils ont quand même gardé cette chose-là. Et donc leur maison est vachement importante, le lieu où ils travaillent, hein, comme je disais tout à l'heure, d'où ils viennent et comment leur théâtre a complètement été transformé par cette vie-là, du coup. Hein, leur manière de faire du théâtre a complètement été changée. Et donc assez naturellement, on a parlé de tout ça, on avait forcément un langage commun, tu vois, comment notre théâtre, notre vie a influé sur notre théâtre à un moment donné. C'est-à-dire qu'on est, ce qu'on était nous, a finalement fait l'âme de ce qu'on faisait. Enfin, et puis je leur proposais de faire une boîte. C'est tombé bien. Ça s'appelle Dans ma maison, tu vois, donc c'était complètement évident. Ils avaient quelque chose à raconter sur leur maison.
Bon, je ne l'ai pas vu celle-là non plus, la boîte Italie. Voilà. Il y en a deux que je n'ai pas vu. Disons qu'à chaque fois, ça s'est passé comme ça.
À chaque fois, ça s'est passé comme ça. Même chose pour Bruxelles, moi je suis à moitié belge. Hein. Si c'était un peu naturel que je repasse la frontière, je suis à moitié belge, je suis français, mais mon grand-père était belge, enfin voilà. J'ai de la famille en plus du côté wallon et côté flamand. Enfin, c'est vraiment un croisement. Donc c'était intéressant pour moi aussi de réinterroger ces frontières-là. Et puis cette singularité de la Belgique, c'est assez marrant parce que quand je rencontre un cousin wallon avec un cousin flamand, on parle anglais. C'est intéressant.
C'est intéressant.
Mais voilà, hein, c'est-à-dire que c'est tout à coup notre langue commune, c'est l'anglais. C'est étrange quand même. Donc c'est des vraies questions, c'est, voilà, de frontières, de pays, de maisons. Bon, voilà, bon. Et puis, autre petite histoire. Pour Moscou Translation, dont je racontais tout à l'heure que quand je prenais le train, quand je rentrais ici, à Olno Emery ou à mes parents, je prenais le Paris-Moscou, donc je quittais Paris et je prenais Paris-Moscou. Évidemment, on peut se dire si je m'endors, je me retrouve à Moscou, tout ça. Et puis, lors d'un de mes spectacles, toujours les caravanes qui m'ont emmené vraiment, qui m'ont fait croiser des rencontres, j'ai croisé Elena Gilova, qui est une comédienne russe, que j'ai trouvé assez formidable. Qui est danseuse à l'origine, travaillait avec Nadj et tout ça. Mais... Et puis on s'est dit, putain, mais. Bon, elle était sur d'autres rails, justement, et elle a décidé, avec force d'ailleurs, de changer l'endroit de sa maison. C'est-à-dire de quitter la Russie. Ce qui était pour elle pas simple, parce que. C'est son pays quand même, déjà. Toute sa famille, en plus, était comédienne permanente du théâtre de Saratov, quoi. Donc c'est avec des tournées internationales, avec du boulot, ouais. Et d'arriver dans un pays où tu parles pas la langue ou trois mots, de plus avoir de boulot, en gros, quoi.
C'était un gros risque.
Hein. Un gros risque. Voilà. Ouais, faut le faire quand même. Ouais. Donc tout à coup de changer l'endroit de sa maison un peu. Et puis on a beaucoup parlé. Et puis entre temps, on était à Berlin aussi. Et puis rencontrer Patrick Schott, donc Berlin, notre histoire aussi. Et j'ai eu envie de faire se rencontrer cela dans une boîte.
Berlin-Moscou.
Berlin-Moscou.
Moi, dans mon souvenir, c'était une belle histoire. C'était très fort.
Oui, c'est une belle histoire de ces deux-là. Et deux c'est acteurs.
Poétique, quoi,
ouais.
Très,
ouais. Deux acteurs formidables aussi. Puis alors, cette boîte, pour moi, toutes les boîtes ont des émotions. Évidemment. Je les aime toutes. Et celle-là, pour moi, a un parfum très particulier parce que, d'une part, j'ai enfin pris le Paris-Moscou. Non, j'ai pas pris le train, mais je me suis retrouvé de Paris à Moscou. C'était quand même un vieux rêve. Donc, je suis allé travailler là-bas. Et après, on est allé à Berlin. Et c'était pour moi, l'aventure russe a été incroyablement forte. parlé des heures, travailler en workshop là-bas avec les acteurs russes, ça a été waouh. C'est un autre monde, une violence terrible d'ailleurs, je trouve. C'est un pays dur, tellement dur. Magnifique, hein, mais dur. C'est le plus grand pays du monde, hein. On oublie ça souvent. C'est le plus grand pays du monde, géographiquement parlant. C'est pas forcément le plus peuplé, c'est la Chine, je crois, ou l'Inde, mais géographiquement parlant, c'est, ouais. C'est le pays, le plus grand pays du monde. La région de Saratov, c'est aussi grand que la France. Donc c'est énorme. Donc la manière de regarder le monde aussi n'est pas la même, évidemment.
Et puis c'est un pays qui a connu vraiment des... C'est pas une petite mutation,
c'est un sacré pays, quoi, avec une histoire, enfin des histoires même. Incroyable, enfin. Donc c'était pour moi une aventure singulière. Et puis après de se retrouver à Berlin, c'était assez drôle. Je raconte cette histoire-là parce que ça me paraît intéressant. J'étais à Saratov, et donc avec des jeunes acteurs, j'avais 25 ans, tu vois. Et on parlait beaucoup. Et je leur dis, après on va les répéter à Berlin. Et je leur parle du mur de Berlin. Et là, ils me regardent avec des yeux grands comme des soucoupes volantes ou comme des Spoutniks. Ils me disent, c'est quoi le mur de Berlin ?
Vous avez quel âge ?
25 ans. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas, aucun d'entre eux, connaissait l'existence du mur de Berlin.
Ça peut paraître étonnant.
Ça peut paraître étonnant pour nous.
Parce que il y a les cours d'histoire, mais aussi parce qu'on en a.
Mais c'est pas dans leur histoire.
Les commémorations.
Nous. Et eux, c'est pas du tout dans leur cours d'histoire. D'ailleurs, pour la plupart, en gros, en caricaturé, ce sont les Russes qui ont gagné la guerre, quoi. Tu vois. S'ils avaient eu une rivalité avec les Américains. Ce qui n'est pas faux non plus, c'est-à-dire qu'ils ont perdu beaucoup de gens, il y a eu un investissement de l'armée russe qui était assez énorme. Eh bien, ils ne connaissaient pas l'existence du mur de Berlin. C'est impressionnant quand même. Aucun. C'est-à-dire que j'étais en un workshop, il y avait 15 acteurs et actrices, aucun.
Du coup, vous leur avez raconté.
Voilà. Voilà. Et donc, c'était intéressant, cette vision des choses très différentes. D'où on regarde le monde, encore une fois, de quel endroit.
Ouais. Mais ça renvoie au fait qu'il n'y ait justement pas de vérité, pas de dogme, et que finalement tout est laissé. Il y a une liberté d'interprétation, c'est ça qui est bien aussi dans tout ce que vous faites.
J'espère, oui.
Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi justement une réflexion par rapport au public. C'est-à-dire, pas uniquement faire en sorte que le public puisse être bien installé, que ça puisse bien se passer au niveau technique. J'avais été surprise à la fin des boîtes, quand on était sortis du spectacle. On s'est tous retrouvés devant un buffet ou devant un verre, et puis voilà, on a discuté aussi.
Oui. C'est une question pour moi permanente, récurrente. À qui je parle ? Tu vois, c'est vraiment à qui je parle. Et j'ai eu envie vraiment de travailler sur des petites jauges, pour que d'une part le spectateur puisse être sur en gros plan permanent sur les acteurs, comme au cinéma, tu vois, que pas l'acteur soit pas une espèce de truc qui s'agit sur scène là, de loin, tu vois, et qu'on soit au plus proche de sa peau et de son regard et de sa pupille, c'est-à-dire qu'on soit dans ce rapport-là, tu vois, que le spectateur puisse être au plus proche de l'acteur, et puis que l'acteur soit aussi au plus proche du spectateur. On demande pas au spectateur de participer, mais on est dans un rapport de partage. Et moi, j'avais envie de retrouver ce moment de rendez-vous et de partage avec le spectateur. Soit plus qu'un spectateur, soit un invité, tu vois, à qui on fait partager quelque chose qu'il n'est pas obligé d'aimer, d'ailleurs. Après, il aimera ou il n'aimera pas, mais en tout cas, on va lui proposer une nourriture, dans tous les sens du terme, pour lequel on s'est donné beaucoup de mal. On espère qu'il y goûtera un peu, mais il n'est pas obligé non plus. N'empêche qu'on va aller jusqu'au bout de cette histoire-là, de cette invitation-là. C'était une des premières idées sur lesquels on travaille en permanence. Et puis l'autre chose, c'est que je trouvais que nous, on confisquait beaucoup le dialogue. On parle tout le temps de dialogue au théâtre, dialogue, machin. Et puis c'était réservé au long de la scène, tu vois, les gens arrivaient dans le noir. Avant que les acteurs arrivent, on met la salle au noir, tu vois, on passe le spectateur au noir, en quelque sorte, pour que nous, on soit dans la lumière. On monopolise le dialogue, on propose quelque chose. Et puis, une fois que les acteurs sont partis, on rallume la salle. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose comme ça qui était bizarre pour moi, qui est intéressant, d'ailleurs, mais j'avais envie qu'on soit dans la même lumière. que ce dialogue puisse se prolonger pour ceux qui le veulent, tu vois. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a un buffet qu'on raconte. Et si on a envie de parler, les acteurs ne sont pas dans leur loge, ils sont là tout de suite. Si on a envie de parler, d'échanger, que le dialogue aussi puisse se prolonger. Si on en a envie, évidemment.
Parfois, je pense qu'on peut avoir envie, mais qu'on n'ose pas parce qu'on ne sent pas. Le spectacle est fini, bon, ben, on rentre. Ou alors, on va prendre un verre pour en discuter, mais on n'a plus accès à. C'est comme si le moment et l'espace se refermaient. Et on doit partir, et c'est un peu dommage parce qu'on aurait bien envie de discuter avec les gens qui ont fait le spectacle.
Oui, tout à fait.
Acteurs, techniciens, enfin, tous les gens qui ont pu participer, puis ben, des fois, on ne peut pas.
Voilà, je suis absolument d'accord. Donc, j'avais envie, voilà, qu'il y ait cette prolongation possible, de tout faire pour que cette prolongation soit possible. Il faut se battre, hein, parce que c'est pas dans les traditions, parce que ça implique aussi une organisation, ça implique qu'on prenne pas le train tout de suite derrière le spectacle pour rentrer chez soi, enfin, tu vois, c'est. Mais les acteurs qui travaillent avec moi, en général, sont d'accord avec ça. Et ils ont envie de ça aussi, tu vois, faut en avoir envie. Et voilà, puis moi, j'aime bien, par exemple, parler de la boîte Moscou à l'instant, je tends l'oreille, j'entends qu'il y a des Russes, forcément, qui sont là, qui parlent russe avec Elena, ou t'as toujours des gens, t'as toujours des Allemands qui parlent allemand avec Patrick, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment intéressant. Tu sens pouf que le dialogue et les langues se prolongent.
Fin de l'épisode 3. Fin du voyage qui nous a menés du nord à Moscou, de l'Italie à Bruxelles, en passant par le garage de la compagnie Oiseau-Mouche. Dans le dernier épisode, Christophe Piret reviendra sur le statut associatif du théâtre de chambre, le rapport aux institutions, pour mieux nous faire comprendre le sens qu'il donne au mot militantisme. Oh, the chrysalis in your palm, see it spread and change. It won't do you any harm, it's just trying to rearrange. It was born to live a day, now it flies up from your hand. It's beautiful, it's the one they call your ever-loving man. Wolves have carried your babies away, or your kids drip from their teeth. The nights are long and the days bitter cold beyond belief. You spread yourself like a penitent on the mad vibrating sand. And through your teeth arranged to meet your midnight man. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around, oh baby, don't you see? Everybody wanna be a midnight man. Disturb me as I sleep, treat me gentle when I wake. And don't disturb me when I sleep, even though your body aches. And even though your body aches, to serve at his commander. Between the walls, she still adores her ever-loving man. Close your eyes, sleep in him, dream of your last sons and daughters. Me, I'll raise up my dorsal fin and glide up and down the waters. I glide up and down the waters and I walk upon the land. And I'll call them out, the ones who dealt your midnight man. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around.
Be a midnight man.